Bonjour à tous, il est le cerveau de l'intelligence artificielle chez Facebook, pionnier du deep learning, une méthode d'apprentissage dont on tentera de définir les contours, les promesses et surtout les limites. À partir de 12h55, Yann Lequin est aujourd'hui l'invité de la grande table des idées. Avant cela, femme, mode d'emploi ou l'histoire de Jmia, prostituée de Casablanca, sa fille, ses amants, ses collègues, ses amis, pour tout au quotidien. Elle est l'héroïne de la vérité, sort de la bouche du cheval et elle se débrouille, cette femme-là. J'ai 34 ans et pour vivre, je me sers de ce que j'ai. Un premier roman publié chez Gallimard, celui de la romancière marocaine Meriem Alaoui, notre invitée jusqu'à 12h30. Bienvenue autour de notre grande table culture, idées, on est ensemble jusqu'à 13h30.
La grande table. Olivia Gesbert.
Et bonjour Meriem Alaoui.
Bonjour Olivia.
Ce n'est pas un roman misérabiliste, La vérité sort de la bouche du cheval. Pas non plus un remake marocain de Pretty Woman, même si ça se termine bien. Si le quotidien de ces femmes à Casablanca est dur, elle n'en oublie pas pour autant de vivre, de rire, de rêver, d'affabuler. Votre héroïne, c'est une héroïne solaire, vous l'avez pensée comme ça, une héroïne méditerranéenne ?
Je ne l'ai pas pensée du tout, ni solaire, ni méditerranéenne, ni rien, mais c'est vrai qu'elle l'est. Jmia est une femme qui est pleine d'énergie, elle a une vitalité extraordinaire et c'est vrai qu'elle n'est pas du tout dans l'apitoiement. Je n'ai pas pensé à sa personnalité avant de me mettre à écrire. D'ailleurs, le jour où je me suis mise à écrire, je ne savais pas que j'étais en train d'écrire un roman. Je me suis assise et il y a des choses qui sont sorties. Et c'est sorti à la première personne comme ça et c'est Jmia qui est sortie.
Vous étiez en train d'écrire quoi ?
Eh bien écoutez, c'est rien. J'écrivais, j'étais à Casablanca et c'était le vendredi 11 juin 2010, jour auquel commence l'action d'ailleurs. Et en fait, il était 20h passées et je me promenais dans les rues de mon quartier qui est celui de Jmia aussi, donc c'est dans le centre-ville de Casa. Je me promenais et puis je suis montée chez moi et j'avais rien à faire ce jour-là, je m'ennuyais un petit peu. J'ai pris une première bière, j'en ai pris une deuxième, une troisième et au bout de trois bières, j'ai vu mon ordinateur. Je me suis dit tiens, je vais ouvrir un fichier Word. Comme il m'arrive souvent de le faire, hein, j'écris des petites choses, un peu poésie, des petites choses par-ci, par-là. Et j'ai ouvert ce fichier et il y a quelque chose qui est sorti. Tout à fait. Et c'est un premier
c'est un
roman,
premier
donc
roman.
Je ne l'ai pas vraiment pensé. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai poursuivi l'écriture du roman quasiment comme ça, sans savoir où j'allais.
Vous dites, c'est pas larmoyant, elle ne se plaint pas. Ouais. Et pourtant, elle aurait des raisons de se plaindre. Elle aurait des raisons d'aller mal.
On pourrait penser qu'elle aurait des raisons de se plaindre, mais je n'en suis pas sûre. En fait, elle n'a pas le temps pour ça. Elle n'a pas la personnalité de pour ça, elle n'en a pas le temps non plus. Tous les jours, elle se réveille et tous les jours est un nouveau jour. Et dans cette journée, elle a mille choses à faire, dont notamment savoir comment est-ce qu'elle va boucler sa journée, combien de clients elle va avoir, est-ce qu'elle va avoir assez d'argent ou pas. Et donc, elle se pose pas ce type de questions. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres, de Halima, donc la jeune femme qui habite avec elle, qui elle se plaint, mais elle vient d'un milieu qui est complètement différent. Elle s'est simplement pas adaptée à la violence et à la brutalité de la rue.
Et d'elle, de Halima. Votre héroïne, Jmia, dit « Tu sais, je crois qu'au début, elle a cru que c'était facile. Genre, tu viens, tu fais ça et tu passes à autre chose. La pauvre, si c'était aussi simple, pourquoi n'y a-t-il pas plus de filles dans les rues ? Pourquoi on a toutes autant d'affinités avec la bouteille ? Pourquoi les filles s'adonnent aux joints ? Pourquoi les filles tapent des cachets ? Pourquoi tout ça, en fait ?» Cette amie camarade, Halima, qui déprime et qui lit le Coran entre deux clients, c'est un livre, c'est un roman autour de la prostitution. De ces femmes aussi qui sont dans la rue, sur la réalité de leur vie. J'ai 34 ans et pour vivre, je me sers de ce que j'ai. Et ce qu'elle a, c'est son corps.
Tout à fait, tout à fait. Ce qu'elle a, c'est son corps et elle n'a pas au début vraiment choisi de se retrouver là-dedans. D'ailleurs, je ne sais pas si on fait vraiment ce choix un jour. C'est les aléas de la vie et puis voilà, les conjonctures comme ça qui font qu'on se retrouve dans cette situation. Jmia se retrouve là-dedans et elle questionne pas nécessairement sa situation. Elle y est, elle a un corps. Elle s'en sert et voilà.
Elle y est aussi parce qu'elle a eu un premier mari qui s'est transformé en mac ou souteneur,
hein,
d'une certaine
tout
manière. Donc elle bascule aussi là-dedans très rapidement. Et elle est entourée où elles sont entourées d'un monde d'hommes que vous décrivez quand même globalement comme profiteurs, violents, paresseux, amoraux. Il y en a pas un pour rattraper l'autre dans votre roman. Quel modèle reproduisent-ils tous ces hommes ?
Alors je ne sais pas s'ils reproduisent un modèle parce que c'est pas vraiment le modèle traditionnel de l'homme au Maroc. C'est pas son rôle traditionnel. En général, c'est lui qui pourvoit aux besoins du foyer. Donc, pas en général, mais dans les sociétés, dans le Maroc traditionnel, c'était l'homme qui ramenait l'argent à la maison. Et là, c'est vrai qu'on a une nouvelle génération d'hommes jeunes, plus ou moins jeunes, que ça ne dérange pas du tout d'être entretenu par leurs femmes, et il y en a beaucoup. Donc on a souvent des femmes de ménage, par exemple, qui vont se lever le matin, accompagner leurs enfants à l'école, travailler toute la journée comme domestiques chez des gens plus aisés, revenir le soir, faire le ménage, le linge, préparer à manger pour la famille, pendant que l'homme passe la journée au café à fumer des joints. Donc moi, les portraits d'hommes, si vous voulez, que j'ai dressés, je les ai pas inventés. Je me suis inspirée de la réalité de ce que j'ai vu autour de moi.
Est-ce qu'il y a aussi des hypocrisies actuelles dans la société marocaine que vous vouliez pointer du doigt à défaut de les dénoncer ? Quelle serait cette principale hypocrisie aujourd'hui ?
Est-ce qu'il y a des hypocrisies ? Oui, bien évidemment, il y en a. Est-ce que c'est spécifique au Maroc ? Non, je ne pense pas.
Non, mais c'est le cadre de votre roman. Hein.
Oui, mais alors justement, c'est un roman et je n'ai aucun message. Il n'y a aucun message derrière ce roman. Je n'ai pas cherché à pointer du doigt quoi que ce soit, à dénoncer quoi que ce soit, ni à mettre en avant quoi que ce soit. Je me suis plongée dans la tête de Jmiha, justement ce soir de juin 2010. J'ai créé un espace mental dans lequel elle évolue et pense librement, et je l'ai laissée s'exprimer. Il y a vraiment aucun message.
Kamel Daoud vient de publier ici en France Le peintre dévorant la femme, où il parle du désir, où il parle aussi du corps des femmes et des relations hommes-femmes. Précédemment, dans Sexe et mensonges, vie sexuelle au Maroc, paru l'an passé aux Arènes, le prix Goncourt Leïla Slimani, elle avait tendu l'oreille à une jeunesse marocaine dans un monde arabe où le sexe se consomme partout, disait-elle, comme une marchandise, le sexe entre soumission et transgression.
La sexualité se retrouve finalement au carrefour de beaucoup de choses. Elle se retrouve au carrefour du pouvoir de l'État, du pouvoir du père, enfin du patriarcat, du foyer. C'est la question du rapport du corps de la femme avec la rue, avec la religion évidemment. Et donc le fait que ça se retrouve au carrefour de tout ça en fait une affaire extrêmement complexe. Et ce qui est certain, c'est que le corps de la femme, en tout cas la citoyenne marocaine, reste contrainte par le groupe. Elle n'est pas encore complètement vue et considérée comme un individu. Et regardez cette absence de mixité, regardez cette difficulté à vivre avec l'autre, à accepter le désir, à accepter des plaisirs aussi sains. Vous savez, je parlais justement avec Kamel Daoud, on se baladait dans Paris cet été et on regardait les quais de Seine, on regardait les jeunes couples, les garçons, les filles assis. On se disait ça, par exemple. Ça paraît banal, on regarde ça, on a l'impression que c'est tout à fait normal. Mais quand vous êtes au Maroc et que vous avez 17 ans, 18 ans, vous êtes avec une fille que vous tenez par la main et qu'un flic vient et vous dit ce que tu fais, t'as pas le droit. À 17 ans, à 18 ans, c'est extrêmement humiliant pour un jeune garçon, pour une jeune fille. Et puis en plus, ça vous met dans la tête que cette chose qui est très simple, qui est la tendresse, qui est l'amour, qui est pour moi un des plus grands bonheurs qu'on puisse vivre dans la vie, et que cette chose-là, elle est interdite, elle est sale, elle est pas bien. Et moi, je considère qu'il faut contrer ce discours extrêmement simpliste, c'est de dire une femme qui n'est pas vierge est une prostituée. Non, c'est plus compliqué que ça.
La réalité, même si c'était pas le choix de faire un roman à message, vous pousse quand même aussi à la raconter, puisque vous vous êtes inspirée de la vie de ces femmes de ce quartier de Casablanca où vous habitez. Quel rapport ont-elles à leur corps ? Quel rapport la société aussi a-t-elle, la société, au corps des femmes pour vous aujourd'hui, Maryam Alaoui ?
Quel rapport ces femmes ont-elles avec leur corps ? Je pense qu'elles ont dépassé cette question et qu'elles ont aujourd'hui un rapport, en tout cas ces femmes en particulier, décomplexé. Il est caché dans une djellaba, parce que ces femmes-là, ces prostituées de la rue, portent des djellabas. Donc a priori, on pourrait penser que c'est pas quelque chose de particulièrement érotique, mais c'est absolument pas le cas. Et la djellaba peut être extrêmement érotique parce qu'elle sert aux bons endroits. Et je pense que ces femmes ont une acceptation de leur corps et un rapport à leur corps qui est sans complexe. Et par rapport aux femmes en général et au rapport avec leur corps, moi j'ai tendance à c'est peut-être après un défaut personnel, mais j'ai tendance à voir les choses sous un prisme individuel. Et je ne me considère pas, par exemple au Maroc, je ne me considère pas comme une femme qui est soumise à un certain nombre de règles et qui doit se conformer à ces règles-là. J'ai la chance d'avoir une éducation assez libre et donc de pouvoir me dire, bah écoutez, moi je fais ce que je veux et comme je veux. Et je ne m'envisage pas, en tout cas en tant que femme, lorsque je fais quelque chose. Je m'envisage en tant qu'individu et j'assume ce que je fais. Alors parfois ça donne lieu à des situations un peu difficiles où il y a de l'incompréhension de la part des autres, mais je crois que la libération, en tout cas la liberté, elle passe d'abord par l'esprit.
Ce que dit Leïla Slimani, c'est aussi que le problème actuel, selon elle, de la sexualité au Maroc, à travers cette enquête qu'elle a pu réaliser, c'est le silence. Est-ce que le fait d'écrire pour vous, Meriem Alaoui, c'est aussi parler?
Alors le silence, c'est dire. Le silence, il n'est pas total et pas absolu et pas partout. C'est-à-dire que les femmes entre elles, par exemple au Maroc, vont parler de sexualité de manière extrêmement libre et extrêmement libérée. Chose que je n'ai jamais vue dans des sociétés occidentales. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi cette culture du hammam, cette culture de la nudité, où il y a une proximité entre femmes, le harem aussi, qui fait que les femmes vont parler entre elles de manière très libre. Donc est-ce qu'il y a un silence? Tout dépend d'où on se place.
Voilà. Libre et de manière aussi crue, oui. Voire fleurie, oui. Que cette langue que vous avez choisie pour votre roman, Meriem Alaoui.
Alors cette langue qui sonne particulière quand on se place d'un point de vue français, c'est simplement de la darija, c'est de l'arabe dialectal marocain. Donc c'est une langue qui est comme ça, qui est très très imagée, qui est parfois poétique, un peu fleurie, qui est étrange. Et en fait, quand je me suis mise dans la tête de Jmira, il y a un mécanisme de traduction simultanée qui s'est mis en place de l'arabe au français et qui s'est fait en fait sans filtre et sans le filtre de ma personne en fait et ça a donné cette langue qui est somme toute assez peut-être étrange vu de l'extérieur.
Non, mais c'est vrai que dans la vraie vie, c'est de l'arabe ou c'est un français qui se mélange à l'arabe. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez choisi d'écrire tout en français, à part quelques lieux à part quelques mots comme Anafa en avant ou Shemkara qui est le clochard édenté, accro aux psychotropes ou aux substances hallucinogènes, comme vous le traduisez dans un petit glossaire de fin. Mais vous avez traduit l'ensemble de ces expressions qui peuvent être utilisées par ces femmes. Le roman, c'est en fait un journal intime, celui de Jamia, qui ne lui cache rien à son roman, à son journal intime. Elle raconte au jour le jour, dans un parler franc, parfois cru, donc les habitudes des clients, la vie des copines, la figure protectrice et effrayante du Mac, Hassine. Et à travers ses micro-récits, elle décrit quand même le quotidien au Maroc, le patriarcat, la mesquinerie masculine, le poids de la religion, les rêves aussi, devant le poste de télé. C'est écrit à la première personne du singulier, avec un jeu subjectif, dans une langue donc qui n'est pas la sienne en français, qui n'est pas celle des femmes de la rue directement. Ce choix-là, ce choix d'un parler populaire, de coller au plus près de ce que peut être la musicalité de cette langue de la rue, pourquoi ?
Parce qu'il s'est imposé, parce que je n'existais pas, parce que j'étais dans la tête de Jmira et qu'elle pense et parle en arabe et que en fait tout ce qu'elle décrit, le Maroc qu'elle décrit, c'est son Maroc à elle, c'est son Maroc des rues, c'est son Maroc avec ses contradictions, avec son alcool, avec sa drogue, sa violence. Donc pourquoi? Simplement parce que ça s'est imposé et c'est comme ça que Jmira parle. Alors ce n'est pas un journal intime dans le sens où Jmira n'écrit pas. J'imagine plutôt qu'elle s'adresse au lecteur à l'oral ou qu'elle a quelqu'un qui est tour à tour à côté d'elle et dans sa tête pour partager avec elle son univers et sa vie.
Mais écrit au jour le jour.
Tout à fait. C'est plus qu'au jour le jour. Parfois on est dans l'action immédiatement. C'est-à-dire que parfois on est à la minute. La minute, si j'ose dire.
Et dans ce va-et-vient entre l'oral et l'écrit, vous avez inventé, vous, votre propre langue de romancière, Meriem Alaoui, que vous retrouverez dans vos prochains livres, puisque c'est le premier.
Je ne pense pas. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de mal au départ avec ce texte, parce que je me disais, mais enfin, on n'écrit pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette langue? C'est vrai que c'est très cru, voilà, il y a beaucoup de gros mots, c'est un langage qui est parlé. Je me disais, mais c'est pas comme ça qu'on écrit. Après, j'ai dépassé cette, si vous voulez, cette réticence de départ en me disant bon ben voilà, j'étais dans la tête d'une prostituée, une prostituée parle comme ça, donc voilà, on essaie de, c'est le plus juste pour le langage d'une prostituée. Après, non, mon prochain roman, si prochain roman il y a, ne sera certainement pas comme celui-ci.
Il n'y est pas déjà?
Non, je travaille, enfin, j'ai pas encore commencé, mais j'aimerais travailler sur l'adaptation au cinéma de ce roman-là.
Voilà. Et on va parler de cinéma dans quelques instants avec vous. La romancière Meryem Alaoui est avec nous jusqu'à midi et demi à l'occasion de la parution de son premier roman ici en France. La vérité sort de la bouche du cheval, c'est chez Gallimard. Midi 17 sur France Culture.
If you know people who know me, you might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in circles.
Parce qu'il est aussi question de femmes dans le nouvel album de Chad Marshall, alias Cat Power, en duo ici avec Lana Del Rey, pour ce titre Woman, extrait de son nouvel album Wanderer, qui revient donc après une longue absence. La chanteuse américaine, elle sera en concert notamment le 25 octobre au Trianon de Paris.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Bouche de cheval. La vérité sort de la bouche du cheval. C'est comme ça que Jmia appelle Chadlia, la nouvelle venue qui vient en repérage dans ce quartier de Casablanca pour tourner un film. Ce surnom, elle le doit d'abord à sa silhouette. Je vous cite, un bâton tout maigre qui glisse la tête par le rideau et qui l'ouvre d'un mouvement fluide. Un bâton tout maigre avec au bout des cheveux longs et en pagaille. Elle est debout devant la porte et elle nous regarde en souriant, pleine de grandes dents, bouche de cheval. Voilà d'où lui vient ce surnom. Quelle est sa vérité à elle, ce regard extérieur qu'elle va apporter sur la situation de ces femmes et notamment sur ce qu'elle va révéler d'elle-même à Jmia? Ce regard extérieur, c'est un peu vous?
Non. Moi, j'ai bouche de cheval a grandi aux Pays-Bas. Elle est, c'est une Marocaine de l'étranger, donc elle a un regard occidental sur les choses. Moi, je suis née au Maroc, j'ai grandi au Maroc. Voilà, je suis dans Casablanca. À Casablanca, je suis dans mon élément. J'ai un regard qui est totalement subjectif et passionné et passionnel. Donc, bouche de cheval est vraiment, elle vient de l'extérieur.
Et est-ce qu'elle vous a permis à vous, la romancière, de faire cette mise à distance?
C'est très difficile en fait à faire passer comme message, mais je n'existe pas en tant que romancière. Vraiment, je n'existe pas. Il y a rien de ce que je pense dans ce livre. Il y a rien de ma manière de percevoir le monde ou Casablanca. Ce livre n'est absolument pas à propos de moi. Il me traverse pas. Et à la limite, quand je l'ai relu D'ailleurs, la première fois que je l'ai lu, c'était il y a quelques jours, et je me suis dit mais
c'est dingue qu'il ait pu écrire ça.
Mais d'où c'est sorti? Mais vraiment. Donc non.
Il vous est complètement extérieur. Un film à venir dans ce roman, La vérité sort de la bouche du cheval. Ce qui est incompréhensible pour Jmia, cette idée que Shadia vient ici pour y réaliser un film sur ces femmes, sur ce quartier, et vous écrivez. Et pourquoi elle veut garder les rues de Gaza comme elles sont pour que tout soit comme dans la vraie vie. Les gens, pourquoi ils regardent des films, à son avis? Pour voir des saletés ou pour changer d'air et rigoler un peu? C'est vrai, c'est une assez bonne question qu'on pourrait renverser aussi vers la littérature et vers le roman. Pourquoi lire des livres où tout est un peu sale et où l'air est chargé?
C'est-à-dire que dans l'univers de Jmia, effectivement, sachant qu'il faut préciser que Jmia est une fan de télévision, c'est son truc dans la vie. Les feuilletons télé, la telenovela en particulier, pour elle, c'est le summum du cinéma. Il y a des histoires d'amour, il y a de la passion, on se déchire, il y a de l'argent. Donc vraiment, pour elle, c'est ce qui se fait de mieux. Et pour elle, c'est aussi une manière, bien évidemment, d'oublier son quotidien, de s'évader, de rêver. Donc elle comprend effectivement absolument pas en quoi un film d'auteur peut être intéressant pour qui que ce soit. Elle ne voit pas quel est l'intérêt d'aller regarder des prostituées dans une rue de Gaza.
Ce roman, le vôtre, Maryam Alaoui, La vérité sort de la bouche du cheval, évoque un film, même si vous pensez en faire une adaptation. Ce film, c'est Much Love de Nabil Ayouch, qui racontait le quotidien de quatre prostituées à Marrakech, et pour lequel l'actrice Loubna Abidar avait été nominée ici en France pour le César de la meilleure actrice.
باقا زوينه وباقا صغير مالكي اللي خصني نجمع الفلوس بيديا وسناني كل كلبه خصنا الفلوس خصنا الكرا خصنا الزبل خصنا الوين مقايره انا اللي كنفكر في هذا الشيء
راه يلا فايقه انا
زو كاين غادي القحبه
لا حبيبه زعما لو باش نعزو داير بها
اخترتو الزوامل
ما انت ما شادين لا غوت خيط انا في حالكم
وين رايحة؟
أنا عندي كرامة وانت هنتيني اليوم
مش كتشوفي؟
شوف واحد الطيارة
فين غدا الطيارة؟
غادي لواحد الجزيرة بعيد غادي نكون عيالات محترمات ورجال كيعاملونا بحال عيالات الكلاس
Dans Much Loved aussi, les femmes rient, les femmes sont solidaires, les femmes sont en vie, mais elles subissent aussi la violence d'un monde qui les entoure. Et le langage, là encore, est cru. Vous avez peut-être pu saisir quelques bribes de cette bande-annonce. On y entend l'une d'elles dire « Je commence à ramasser le fric avec mes dents comme une chienne ». On entend une autre s'énerver « Bah les pattes, où tu vas ? J'ai de la dignité et tu m'as humiliée ». On les entend aussi évoquer la possibilité de fuir, de prendre l'avion, et un avion qui irait où, peu importe, vers une île lointaine, on sera des femmes respectables, là où les hommes nous traiteront comme des dames. Ce film, est-ce qu'il vous a inspiré pour ce roman, ou est-ce que tout s'est écrit en parallèle?
Eh bien écoutez, non, puisque j'ai fini l'écriture de ce roman en 2013. Or, à ce moment-là, Much Love n'était pas encore sorti. Donc, je ne m'en suis pas inspirée, simplement parce que chronologiquement, ce n'était pas possible. Alors, aussi autre chose qu'il faut préciser dans ce contexte-là, le type de prostitution dans lequel est Jmia est extrêmement différent du monde dans lequel évoluent les prostituées de Nabil Ayouch dans Much Love. Dans Much Love, on est dans une prostitution très haut de gamme. Les filles gagnent beaucoup d'argent. Elles sont avec des hommes, souvent des Saoudiens, des Moyen-Orientaux qui sont extrêmement riches. Jmia, pas du tout. Jmia se fait 50 dirhams à 70 dirhams la passe. Elle aura jamais accès à cet environnement dans lequel évoluent les filles de Much Love. Donc ce sont des univers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres.
Le film a fait beaucoup de bruit au Maroc au moment de sa sortie. Il a d'ailleurs été par la suite interdit. Oui. Pourquoi des réactions si violentes violente. Nabil Ayouch, le réalisateur dans Le Monde, pensait que c'était probablement aussi parce qu'il avait construit des personnages féminins, des personnages qui ont pris le pouvoir, des femmes fortes et indépendantes, et que ça a pu réveiller au Maroc aussi une blessure narcissique chez les hommes.
Je ne sais pas, je pense que ce qui a choqué d'abord, c'est l'image. L'image a beaucoup plus de poids que les mots, et voir les choses sans avoir à se les représenter est peut-être un choc. Je ne sais pas si là je ne pense pas que ce soit le fait de montrer la femme dans sa force qui est choquée ou provoquée une blessure narcissique. Non, je ne pense pas. Son film est extrêmement réaliste, et pour qui évolue au Maroc, il sait que c'est comme ça, voilà, que c'est la réalité et que ces femmes-là sont fortes. Ce sont des femmes de caractère.
Ce roman, le vôtre, ouais. Meriem Alaoui, vous l'avez écrit, vous le disiez, entre 2010 et 2013, donc commencé au Maroc et fini au Maroc, ou fini aux États-Unis où vous vivez aujourd'hui ?
Fini aux États-Unis. Commencé au Maroc, et puis je me suis arrêtée après 20 feuillets, et pour plusieurs raisons, et puis je l'ai repris en septembre 2012 pour le finir en 2013.
Vous auriez pas pu le finir au Maroc ?
Aussi, tout à fait. Mais j'avais pas de disponibilité.
Vous avez 43 ans aujourd'hui, votre héroïne en a 34. Vous vivez plutôt donc aux États-Unis. Le pourquoi être parti, ça n'a rien à voir avec justement cette liberté d'écrire, vous nous disiez, mais est-ce que ça vous a cependant donné d'autres envies, envie de regarder cette situation, votre pays, ses évolutions autrement ? Parce que, en deux mots, dans le roman, il est aussi question de ce que le Maroc est devenu depuis les printemps arabes, puisqu'on le racontait, le livre a commencé à être écrit en 2010, et je vous cite une dernière fois, à Casablanca, enfin votre héroïne, à Casablanca et dans tout le Maroc, le bordel qui a commencé le jour où l'autre Tunisien s'est versé de l'essence sur la tête est arrivée chez nous. Ça fait deux dimanches que le centre-ville ne désemplit pas. Tous ceux à qui il manque quelque chose, tous ceux qui ne trouvent rien à se mettre sous la dent, tous ceux qui sont en guerre avec leurs femmes, tous ceux qui ne sont pas contents de leur circoncision, tout cela descend dans la rue, chacun avec sa demande. Le pays, aujourd'hui, depuis, rien n'a changé ?
Si, je pense que des choses, si, je pense que ça a évolué, je pense qu'il y a une bizarrement, il y a une presse qui est moins libre, mais une liberté de parole qui est plus grande. Elle se situe au niveau individuel, et je suis assez surprise d'ailleurs de voir la liberté de ton et de parole qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Twitter, YouTube, les réactions du Marocain en tant qu'individu, elles sont extrêmement différentes et très libres de ce que j'ai laissé quand j'ai quitté le Maroc en 2012.
Merci beaucoup, Meriem Alaoui. La vérité sort de la bouche du cheval. Votre premier roman vient de paraître chez Gallimard.
Merci à vous.